Nous sommes devant toi, Seigneur. Tu es là dans ta grâce, dans ta miséricorde, dans ta sainteté. Et tu nous rends participants à ta sainteté. Et tu veux encore nous communiquer ton conseil, ta sagesse, tes directives, afin que nous sachions ce qu'il faut faire. Et qu'ainsi nous puissions toujours mieux te servir, mieux t'aimer et mieux nous aimer les uns les autres. Merci Seigneur pour ta merveilleuse présence ce matin. C'est toi qu'il nous faut, Seigneur, et rien d'autre. Seule ta présence satisfait nos cœurs et rien d'autre, Seigneur. Nous sommes heureux avec toi et avec toi seul. Merci, Seigneur, aide-nous encore maintenant à recevoir la parole que tu veux nous donner dans ta grâce. Ouvre notre intelligence et que nous soyons attentifs à ta voix en réjouissant ainsi ton cœur dans l'obéissance. Merci, Seigneur. Conduis toutes choses maintenant selon ta parfaite volonté. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je crois qu'il nous faut être conduits par le Saint-Esprit, et même lorsque parfois il n'y a pas de message, il ne faut pas s'affoler. Si nous participons à tout ce que le Saint-Esprit fait, même parfois sans message, le Seigneur nous parle et nous repartons édifiés. En cela, le Seigneur aime parfois bousculer nos traditions.
Amen.
Ça nous fait du bien. Ça nous montre aussi pourquoi nous venons, si c'est par routine ou si c'est vraiment pour rencontrer le Seigneur. Que son nom soit béni. Dans l'œuvre de Dieu, il faut être prêt à être bouleversé, à être bousculé. Mais quand c'est le Seigneur qui le fait, on tombe toujours à genoux quand on tombe. Amen. L'ennemi, lui, nous fait tomber à la renverse. Mais le Seigneur, lui, quand il nous fait tomber, il nous dit, allez, tombe sur tes deux genoux. Et celui qui avance sur ses deux genoux restera toujours debout. Amen. Alléluia, alléluia. Quelques pensées maintenant pour conclure un peu tout ce que nous avons dit pendant ces quelques jours. Pas pour conclure, mais enfin, quelques pensées encore, puisqu'il n'y a pas de conclusion dans ces choses-là. Mais quand même quelques pensées encore pour le foyer, mais ça s'adresse aussi à l'Église d'une manière générale. Ces quatre vérités concernent le foyer, bien sûr, mais aussi chaque chrétien. Et cette pensée, celle-ci, comment régler nos conflits dans le foyer ou comment régler nos conflits dans l'Église. Alors, j'aimerais donner quatre pensées importantes. Mais nous allons lire un passage maintenant, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Éphésiens 4, 25, 32. C'est pourquoi ces paroles s'adressent aussi bien à la famille qu'à l'Église. C'est pourquoi renoncer aux mensonges. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et au milieu de toutes ces exhortations, il y a l'exhortation centrale et n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit agit au milieu de nous, nous nous réjouissons de tout ce qu'il fait. Mais il y a une chose que nous ne devons jamais faire au Saint-Esprit, c'est de l'attrister. Et sans nous en rendre compte parfois, nous l'attristons bien souvent. Et j'aimerais donc donner quelques paroles qui vont nous aider à toujours veiller davantage dans ce domaine-là. Dieu nous a bénis, Dieu nous a visités, mais il ne faut pas que ce soit une action qui a duré quelques jours. Dieu veut que cette action aille en grandissant. Dieu veut que nous gardions ce qu'il nous donne, n'est-ce pas vrai? Mais il y a un moyen pour perdre tout ce que vous avez reçu. Et ce moyen, c'est d'avoir, certains chrétiens ont, j'allais dire presque le don, de faire des histoires. Ils ont un don et il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On ne sait jamais ce qu'ils vont nous sortir la prochaine fois qu'on va les voir. Mais oui, cela existe, n'est-ce pas vrai? Alors on ne sait jamais quand ça va finir. Ils sont spécialistes pour découvrir de nouveaux problèmes, de produire de nouveaux conflits, de susciter de nouvelles difficultés. Ils sont spécialistes en cela. Et il ne faut pas être rempli du Saint-Esprit pour faire cela. Vous êtes d'accord avec moi? Et malheureusement, la contradiction, j'allais dire presque la séduction, c'est que ces gens-là pensent être remplis du Saint-Esprit. Ils pensent être remplis du Saint-Esprit. Mais non, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui, justement, a la sagesse de pouvoir régler les conflits et dans son foyer et dans sa communion avec les frères et sœurs. Amen. Amen. Et un signe de maturité spirituelle dans la famille, du papa, de la maman, d'un chrétien, d'un responsable, c'est cette capacité à essayer de résoudre les conflits. Pour cela, je vous assure, il faut être rempli du Saint-Esprit. Susciter des difficultés, des problèmes, des tensions, absolument pas nécessaire d'être rempli du Saint-Esprit. Ça se fait tout seul. Mais pour résoudre ces tensions et ces conflits, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Et bien souvent, ce sont donc dans des petites choses que nous attristons le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important de veiller sur les petites choses qui, autrefois, étaient comme des pierres d'achoppement pour nous, des faiblesses, il nous faudra absolument veiller dans ce domaine-là. Alors, comment résoudre, régler nos conflits dans le foyer et par voie de conséquence dans nos rapports avec les autres? Quatre pensées importantes. Premièrement, vous devez décider de résoudre chaque conflit, à commencer dans la maison. Ce que je dis, c'est tout simple. Mais malheureusement, au lieu de prendre les bonnes décisions, certains chrétiens prennent la décision de ne rien décider. Certains pères de famille prennent la décision de ne rien décider. La maman aussi. On prend la décision de ne rien décider. Et qu'est-ce qui se passe? Si dès le départ dans notre vie conjugale, si dès le départ dans notre vie chrétienne, nous ne prenons pas cette décision de résoudre chaque conflit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous n'en sortirons plus. Au début, nous aurons des problèmes, et si ça continue longtemps, nous serons un problème. Il y a une différence. Tout le monde a des problèmes, mais quand quelqu'un est un problème, alors là, il n'y a plus de problème. Alors là, c'est vraiment sérieux. Une vérité toute simple. Nous devons décider de résoudre chaque conflit. Voulez-vous prendre cette décision? C'est une décision importante. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas basée sur les sentiments. Dans la vie chrétienne, le message de l'Évangile, il y a des sentiments. Mais la vie chrétienne est essentiellement basée sur la volonté. Amen. Nous vivons trop de sentiments. Alors un problème arrive dans le foyer. On attend que ça aille mieux. On attend que les sentiments commencent à s'améliorer, enfin que ça aille mieux. Mais plus on attend, plus la situation se dégrade. Nous ne pouvons pas vivre de sentiments. Les chrétiens qui vivent de sentiments, ce sont les chrétiens qui sont les chrétiens thermomètres. Vous connaissez les chrétiens thermomètres? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des chrétiens thermomètres? Oui? Ah ben alors c'est bien. Qu'est-ce qu'un chrétien thermomètre? Ça monte et ça descend. Pendant une campagne, c'était formidable. On retourne à la maison, les problèmes sont là. On revient à l'église. On retourne à la maison. C'est une vie chrétienne en, comment on dit, en dents de scie. Écoutez-moi bien, quand quelqu'un a une vie chrétienne en dents de scie, si vous vous frottez à cette personne, qu'est-ce que ça fait? Voilà pourquoi, quand on se frotte à vous, il y a des coupures un peu de partout. Il y a des blessures un peu de partout. Ça saigne. Et les chrétiens qui ont une vie en dents de scie, dès que vous les touchez un petit peu, ils vous disent même rien. Simplement quand ils vous frôlent. Une drôle d'impression. Celui-là est bizarre. Mais oui. Avez-vous pris... Écoutez, c'est... très important, c'est le secret d'une vie de famille réussie et c'est le secret d'une vie chrétienne réussie. Prendre des décisions de résoudre chaque conflit. Parce que dans chaque conflit, nous pouvons avoir quatre réactions différentes. J'ai noté ici quatre réactions différentes. Premièrement, nous pouvons prendre la réaction de fuir le problème. Et en disant, oh, cela ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Et beaucoup, voilà comment ils réagissent. Quand il y a un conflit, une tension, une difficulté, il fuit. Ça ne sert à rien. Il fuit. Alors, ils sont toujours en train de fuir, ceux-là. C'est des fuyards. Une deuxième réaction. Nous pouvons abdiquer devant le conflit et la difficulté, nous pour abdiquer. Pourquoi ? Pour être tranquille. Alors c'est soit le mari qui a dominé la femme, je te tiens maintenant, hein. Ou alors c'est la femme qui domine son mari. Alors ça c'est encore pire. Enfin les deux sont pires, ils sont mauvais. Mais enfin, l'un peut dire, voilà comment on résout les conflits, on abdique, pour rester tranquille. Mais ça ne résout pas le conflit, vous êtes d'accord avec moi? Abdiquer, ce n'est pas résoudre un conflit. Fuir, ce n'est pas résoudre un conflit. Si vous voulez être tranquille en abdiquant, vous ne serez jamais tranquille. Non seulement vous ne serez pas tranquille, mais vous allez continuellement tourmenter les autres. Troisième réaction, c'est le compromis. On va faire un compromis. Mais le danger avec cette attitude, c'est qu'on peut faire des compromis avec des principes importants dans la parole de Dieu. Et si on fait des compromis avec des principes importants de la parole de Dieu, alors notre problème ne sera pas résolu. La bonne solution, c'est de chercher à résoudre le conflit en allant à la racine du mal. Sinon, il n'y a pas de résultat possible. Es-tu décidé à aller jusqu'au bout? Ça ne va pas à la maison, ça ne va pas avec la femme, ou avec les enfants, ou ça ne va pas avec ton frère, avec ta sœur. Es-tu décidé? C'est déjà une demi-victoire. Amen. Celui qui a pris déjà la décision a déjà remporté une grande victoire. Deuxième pensée maintenant. Nous devons résoudre le conflit, c'est vrai. Mais le plus vite possible. Il y en a qui disent, oh mais je vais voir, oui d'accord, j'ai pris la décision de régler, mais on va voir ça. Attendons. Et d'après la parole de Dieu, quand est-ce qu'il faut régler ce problème? Commençons par la maison, puisqu'on parle de la maison. Vous avez lu avec moi? Verset 26, qu'est-ce qu'il est dit ici? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Voyez-vous, on peut se mettre en colère, sans pécher aussi. Il y en a qui pensent que parce que certains se mettent en colère, ils pêchent forcément. Non, pas du tout. Il y a une vraie colère, il y a une sainte colère. Mais il y a une colère qui ne provient pas de Dieu. C'est la colère contre la personne. La vraie colère, c'est la colère contre le péché, contre l'injustice. Et Dieu est en colère contre le péché, contre l'injustice. Mais la mauvaise colère, c'est la colère contre la personne. Et cela, Dieu n'en veut pas. Nous ne devons pas être en colère contre quelqu'un, mais contre le péché, l'injustice, la méchanceté, le mensonge. Alors contre cela, nous devons être en colère. Si vous n'êtes pas en colère contre ces choses-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pas contre la personne. Alors, allons plus loin, et qu'est-ce qu'il est dit? Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Autrement dit, bibliquement, quand un conflit éclate dans le foyer, quand est-ce qu'il faut résoudre cela? Avant que le soleil se couche. Est-ce que vous faites comme cela? Nous disons tous que nous sommes des fondamentalistes, que nous mettons la parole de Dieu en pratique. Hein, beaucoup d'entre nous, moi je crois à la parole de Dieu, je crois toute la parole de Dieu. Ma foi, c'est la parole de Dieu. Ah oui? Et ça fait 20 ans que tu n'as pas réglé ton problème? Avec ta petite femme? Ou avec ton petit mari? Ça fait 20 ans que ça dure? Et la Bible dit que c'était le soir même du problème que tu devais régler ton problème. Ça ne sert à rien de dire qu'on croit à toute la parole de Dieu si on ne la met pas en pratique, vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous... Une deuxième pensée, dès qu'un conflit éclate, il faut le résoudre le plus vite possible. Car notre tendance, c'est quoi? C'est de dire, bon, ben, on verra, attendons. Et puis alors, qu'est-ce qui se passe? L'un commence à aller de son côté, l'autre de l'autre. Et plus nous attendons, vous savez, le temps dans ce domaine-là ne résout jamais les problèmes. Beaucoup, nous nous faisons des illusions en disant, bon, le temps réglera, le temps guérira. Non!
Loin de guérir, le temps envenime la situation. Et l'amertume qui au départ, ou le problème qui au départ n'était rien du tout, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 10 jours, vous allez voir qu'un autre problème va se greffer dessus. Amen. 10 jours, bon. 1 mois après, encore un autre problème. Alors une fois, j'ai vraiment vu ça dans ma propre vie. Quand j'étais en formation dans une école biblique en France, j'ai commencé à avoir certaines réactions un peu négatives. Et je n'ai pas résolu tout de suite le problème avec le frère en question. Mais alors, c'est là que c'était au début de ma conversion, donc j'ai bien compris un peu le mécanisme, comment ça se passait. Ah, je me suis dit, bon, ben, je n'ai pas réglé le problème tout de suite. Mais alors, et je reprochais à tel frère ceci. Bon, il n'y avait que ça. Mais comme je n'ai pas réglé tout de suite le problème, le lendemain, je pensais déjà à autre chose. Il y avait ça plus ça. Je lui dis, mais c'est bizarre. Hier, tu lui reprochais ça et c'était tout. Il a rien fait d'autre. Mais maintenant, voilà, tu agis aussi autre chose. C'est bizarre. Comment ça se fait, ça? 2-3 jours après, encore autre chose s'est greffé sur lui. Ça commençait à m'inquiéter. Je dis, Sam, mais il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas en lui. Mais en attendant, il y a quelque chose qui ne va pas en toi non plus. Puisque maintenant, au départ, c'était ça, et puis maintenant, il y a ça et plus ça. Au bout de quelques jours, mais j'en finissais plus. Il ne valait plus rien du tout. Et pourtant, au départ, c'était rien du tout. Ce sont des petits problèmes qui nous arrivent aux uns et aux autres, n'est-ce pas? Je parle ici pas de péchés graves, extraordinaires. Je parle de conflits, vous comprenez ce que je veux dire ici? De nos faiblesses, nos difficultés qu'il y a dans le foyer. Et c'est là que j'ai compris. Et que Dieu, finalement, m'a montré une vérité importante. Il m'a dit, mais si tu ne règles pas les problèmes, voilà ce qui se passe. C'est que ce problème va ouvrir la porte au diable. Et alors, tu vas commencer à penser des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Au départ, tu reprochais ce problème à cette personne. Mais au bout de quelques temps, tu vas rejeter la personne elle-même. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le foyer. Le mari rejette sa femme, la femme rejette son mari. Mais cela se fait comment? Secrètement, subtilement. C'est pourquoi un secret, une méthode divine. Et cela, c'est le mari je parle du foyer maintenant. Le mari, quand il réalise qu'il y a un problème, un conflit dans le foyer, il faut que le soir même, il règle le problème. Si nous sommes chrétiens. Ça, c'est pour les chrétiens. Et parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens, ils font exactement le contraire. Alors, vous voyez que si on faisait cela, on ne le fait pas toujours. Moi aussi, il y a des choses, des fois, qui traînent un peu plus longtemps que d'un jour ou deux. Mais si on prend la décision de mettre tout simplement en pratique ces vérités, vous ne croyez pas que les foyers seraient transformés? Vous ne croyez pas que nos rapports mutuels seraient transformés? Dites-moi, mes chers amis. Et au lieu de nous reprocher des tonnes de choses qui n'existent pas, bien souvent, parce que je l'ai vu dans mon raisonnement, je commençais à reprocher des choses au travers desquelles il n'était pas responsable, pas du tout, des choses. C'était des mensonges, finalement. Mais si nous purifions nos cœurs jour après jour, et le mari ne doit pas supporter de laisser un problème passer la nuit, et il doit trouver sa petite femme avant de s'endormir, et lui dire, écoute, chérie, je suis le chef du foyer. Le chef n'est pas celui qui commande et qui donne des ordres à sa femme et qui dit, écoute chérie, il y a un problème, quand est-ce que tu vas te décider? Le « tu », vous savez, ne résout jamais de problème. Il faut utiliser le « je » pour régler les problèmes. Chaque fois que je dis « tu » à ma femme, ça ne va plus. Je n'arrive à rien résoudre, au contraire, ça la bloque. On met la personne sur la défensive, n'est-ce pas vrai? Elle est bloquée. « Tu as fait ceci, tu as fait cela. » Et chaque fois, je me suis cassé le nez. Ça n'a jamais marché. Mais quand j'approche différemment en disant « je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'on pourrait voir ça ensemble. Il n'y a plus cet esprit d'accusation. Elle est ouverte et nous pouvons ainsi dialoguer. Et l'œuvre de réparation et de réconciliation peut se faire. Ce sont des vérités toutes simples, mes amis. Parfois, nous pensons que nous sommes très, très spirituels, parce que nous manifestons un don ou deux. Nous pensons que nous avons dépassé tout cela, alors que les vérités de base, essentielles, nous ne les mettons pas en pratique. Et nous pensons être des géants dans le monde spirituel. Non ! Nous sommes des géants à nos yeux, mais nous sommes des nains spirituellement aux yeux de Dieu. C'est celui qui, jour après jour, règle ses conflits, qui est un géant spirituel. Amen. C'est celui-là. Et si on mettait ces vérités en pratique, mes amis, vous le savez comme moi, ce serait merveilleux, n'est-ce pas vrai? Mais il faut commencer un jour. Il ne faut pas dire, j'espère le faire, je pense. J'attends que l'autre le fasse, c'est toujours la même chose. Oui, on attend toujours que l'autre fasse. C'est toujours l'autre qui doit faire, toujours l'autre. Non. Un homme spirituel n'attend pas que les autres fassent quelque chose. Il commence à agir lui-même. Amen. Et c'est comme cela qu'on avance. C'est comme ça qu'on grandit dans la maturité. Et c'est comme ça que Dieu peut donner la paix dans notre foyer, la paix dans l'Église. Amen. Gloire au Seigneur. Allons un peu plus loin maintenant. Troisièmement, je vais un peu trop vite là. Nous devons nous concentrer sur le problème lui-même et non sur la personne. C'est un peu ce que j'ai dit, mais je donne encore quelques autres précisions dans ce domaine-là. Nous devons nous concentrer sur le problème et non sur la personne. Et il dit ici que chacun, car nous renonçons au mensonge, et que chacun parle selon la vérité à son prochain. Et un petit peu avant, il est dit, professant la vérité dans la charité. Autrement dit, pour régler un conflit, il faut non seulement veiller à ce que nous disons, mais à l'esprit dans lequel nous disons la chose. Amen. Nous devons professer la vérité dans la charité. Et c'est là le problème aussi. Quand on a quelque chose à dire à sa femme ou à son mari, on lui sort les quatre vérités, mais il n'y a pas d'amour. Ou alors les autres sont pleins d'amour, mais il n'y a pas de vérité. Et il faut se concentrer sur le problème lui-même sans trop de bouillonnement émotionnel. Pas en regardant à la personne en disant « Oh, toi, je te regarde bien dans les yeux, un jour je t'aurai. » Non, il ne faut pas se concentrer sur la personne, mais sur le problème lui-même. Ça nous calme un petit peu, vous ne trouvez pas? Ça nous calme, le problème. On n'est pas parfait, il n'est pas parfait, je ne suis pas parfait. Concentre-nous sur le problème. Ce qui fait que on aura le cœur bouillant, mais la tête froide. Ça, c'est une bonne chose. Il y en a qui ont le cœur bouillant, mais ils ont aussi la tête chaude. Alors ça ne règle pas les problèmes non plus. D'autres ont la tête froide et la tête chaude et le cœur bouillant, et le cœur froid. Ça ne va pas non plus. Pour résoudre des problèmes, il faut un cœur qui aime, mais une tête froide. Donc, qui s'arrête aux choses essentielles et qui professe la vérité dans la charité. Autrement dit, lorsque vous avez quelque chose à dire, lorsque j'ai quelque chose à dire, en une autre vérité toute simple qui peut régler beaucoup de conflits, ce que vous avez à dire, veillez dans l'esprit dans lequel vous dites la chose. Sinon, même si c'est la vérité, ça ne sera pas accepté. Moi, je l'ai vu combien de fois. Les choses que j'ai dites dans la vérité, les vérités que j'ai dites sans amour, ce n'est pas accepté. Et après, on est étonné, on est mais bourgeois. Pourtant, c'est la vérité. Je lui ai bien dit la vérité. Il l'a bien entendu, cette vérité. Viens voir un petit peu ici, je vais te dire les quatre vérités, toi. Assieds-toi là. Tu pourrais te mettre à genoux aussi de temps en temps. Viens là. Vous croyez que ça marche? Non, mais la vérité dans la charité, ça résout les problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? Décidez de le faire. Décidons. Et il faut le faire avant que les conflits arrivent. Et dire, le mari dit à sa femme, la femme dit à son mari, écoute, quand on aura des conflits, alors on va faire une chose. On prend une décision. Hein?
La décision est celle-ci. Eh bien, s'il y a quelque chose, on se dit la vérité, mais dans l'amour. Ça, c'est la plus belle décision que vous puissiez prendre. On se dira la vérité. Il faut se dire la vérité. Il ne faut pas rester dans les ténèbres. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas abdiquer. Il ne faut pas faire de compromis. Ça ne résout rien. Nous allons nous dire la vérité, chérie, mais nous allons le dire dans l'amour. Dans l'amour. Et vous verrez que les problèmes seront ainsi résolus. Vous êtes d'accord avec moi? Les tensions disparaîtront et fondront comme de la neige au soleil. Alléluia. Et les cœurs s'ouvriront comme une fleur s'ouvre au soleil. Gloire à Dieu. Amen. Bon, je ne veux pas vous tenir trop longtemps. Une dernière pensée maintenant. La dernière pensée. Vous devez décider de résoudre le conflit en demandant pardon ou en pardonnant. Vous devez décider de résoudre le conflit en demandant pardon ou en pardonnant. Une autre vérité toute simple, il est dit ici, vous pardonnant les uns, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il n'y a que le pardon qui peut résoudre un conflit. Parce que le vrai pardon va à la racine du mal, n'est-ce pas vrai? Le temps ne résout rien, c'est le pardon qui guérit, qui libère. Mais encore faut-il pardonner de la bonne façon, ça je l'ai remarqué aussi. Par exemple avec mes enfants, quand ils ont fait quelque chose. Je leur dis, maintenant tu dois demander à ta soeur, tu dois demander pardon à ton frère ou à ta soeur. Souvent, ils le font à contre-cœur, vous savez ce que c'est que les enfants. Alors tout à coup j'ai dit, va, tu vas demander pardon, tu vas faire un petit mimi et tu demandes pardon. Alors elle va ou il va vers son frère ou sa soeur, pardon. Et puis alors je dis, tu fais mimi. Oui, si le visage. Allez, approche-toi. Mais il s'approche pas. Allez. Voilà comment certains pardonnent. Pardon. Vous croyez que c'est le vrai pardon? Ça, c'est à recommencer. Et on peut recommencer, mais 1000 fois, ça sera toujours la même chose. Voilà comment on se pardonne souvent, le mari avec sa femme, du bout des lèvres. Bon, pardon. Il vaut mieux rien faire que de dire ça, vous êtes d'accord avec moi? Il vaut mieux rien dire. Et aussi, vous savez comment on pardonne? Il y en a qui vous sortent ça aussi, ça fait des drôles de pardon. Je te demande pardon, mais c'est ta faute aussi. Hein. N'avez-vous pas remarqué cela aussi? Des gens qui viennent vous demander pardon. Je te demande pardon, mais tu sais, c'est ta faute aussi, hein. Qu'est-ce que c'est pardon? C'est pas le vrai pardon. Et puis alors, il y en a d'autres, c'est encore plus subtil. Je te demande pardon si je t'ai fait du mal. Vous voyez, si, je te demande pardon si j'ai fait quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ceci? Qu'est-ce qu'il vient faire là, si? Il y a quelque chose qui ne va pas? Ou tu demandes pardon? Ou alors, c'est pas comme ça que ça marche. Ou alors, vous savez, il y en a qui, comment ils font pour demander pardon? Ils arrivent vers vous, ils vous disent, bon, pardonne-moi. Mais de telle sorte que, finalement, en demandant pardon, c'est pas eux qui ont tort, c'est vous qui avez tort. Ça va à l'opposé de ce que ça devrait donner. Ils vous demandent pardon, mais ils vous donnent l'impression que c'est vous qui aviez, c'était de votre faute. N'est-ce pas vrai? Mais si, il y en a. Ils vous demandent pardon. Ouais, pardonne-moi. Ouais, comme pour dire, mais t'as le cœur dur. Pardonne-moi. Qu'est-ce que c'est cette façon de pardonner? Ou alors comme ça. Bon, je te demande pardon. Regarde-moi ça. Combien on a de peine à pardonner vraiment. Le vrai pardon ne pose aucune condition. Le vrai pardon dit, chérie, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Sans aucun sous-entendu et sans aucune condition. Vous allez pour reconnaître votre faute, non pas pour dire je te demande pardon, mais tu sais, t'as aussi fait ça. Hein? Pour se justifier, vous voyez, on vous sort tout de suite. Alors, il y a le sac, je sais pas où, il y a un sac par là quelque part, donc d'un seul coup, il réapparaît. Mais oui, je te demande pardon, mais voilà ce que t'as fait aussi, toi. Alors, la liste, elle est là, hein. Voilà, alors, il y en a un paquet. Alors, il n'y a rien qui est résolu. Et ces gens disent, mais j'ai demandé pardon. T'as rien demandé. Tu t'es fait des illusions, c'est tout ce que tu as fait sur le pardon. Tu es venu te faire des illusions sur le pardon. Mais je te pardonne. Cela veut dire que je reconnais ma propre faute. Et pourquoi on a de la peine à pardonner bien souvent? Certains pensent que le pardon, demander pardon, c'est un signe de faiblesse. C'est pour ça un peu aussi. Dans le fond du cœur, on pense que c'est finalement un signe de faiblesse. Alors que finalement, demander pardon, c'est un signe de maturité spirituelle. Amen. C'est celui qui est le plus mûr spirituellement qui peut faire cela, n'est-ce pas vrai? Mais quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, ou il ne peut pas pardonner, ou il ne demande pas pardon, ce n'est pas possible. La chair ne peut pas pardonner. Il n'y a que celui qui est rempli du Saint-Esprit qui peut le faire. Et alors quand on pardonne et on dit maintenant, à partir de maintenant, c'est terminé. Amen. Et on considère la personne comme si elle ne vous avait plus jamais rien fait. Amen. Et c'est terminé, on n'en reparle plus. Votre liste, vous la mettez au feu. La liste d'accusations et de je ne sais quoi, de reproches. Écoute chérie, je t'ai pardonné, mais maintenant, la liste est au feu, c'est terminé. On recommence à zéro. Pardonner, c'est recommencer à zéro. Alléluia. Et je crois que c'est merveilleux. C'est ça le vrai pardon. Voilà comment Dieu nous pardonne. Je recommence à zéro avec toi, mon enfant. Je recommence à zéro, je te pardonne. Nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ, n'est-ce pas vrai? Non pas comme nous voulons, non pas comme le monde pardonne, mais comme Dieu nous a pardonné en Christ. Un vrai pardon, un pardon qui libère vraiment. Alléluia. Un pardon qui se fait dans l'humilité et qui apporte libération, joie. Amen. Voilà les quelques paroles que je voulais donner ce matin. Nous sommes tous concernés, moi le premier. Prenons les bonnes décisions. Ayons la sagesse de régler les petits conflits dans nos foyers, dans nos rapports mutuels. Ne soyons plus des spécialistes qui sont toujours là pour susciter, trouver de nouveaux problèmes, de nouvelles difficultés. Mais soyons reconnus comme des hommes et des femmes qui ont la sagesse de régler les conflits et de le faire le plus vite possible et de ne plus en parler lorsque c'est réglé. Amen. Ne revenez plus jamais sur quelque chose qui a été réglé. Ne revenez plus jamais. Vous recommencez à zéro, comme Dieu recommence à zéro tous les matins avec vous. Permettez aux autres de recommencer à zéro tous les matins avec vous, en commençant par votre femme, vos enfants, votre mari. Recommencez à zéro avec eux tous les matins. Amen. Et découvrez la joie qu'il y a, comme Dieu, de pardonner, d'aimer, de patienter, de persévérer. Être pardonné, je termine par cette pensée, c'est Muret qui disait cela, être pardonné, c'est la joie du pécheur sur la terre. Mais pardonner aux autres, c'est la joie du Seigneur dans le ciel. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Alléluia. Amen. Être pardonné, c'est la joie du pécheur sur la terre. Mais pardonner aux autres, ça c'est divin, c'est la joie du Seigneur dans le ciel. Et ce ministère-là, il le poursuit au travers de nous. Ça commence dans la maison, par le mari. Le mari est le premier responsable, il doit donner l'exemple. Et ensuite, du foyer, des époux, ça va sur les enfants. De la famille, ça va dans l'église. Et de l'église, ça va dans le monde. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse ainsi sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons la serrer sur notre cœur et prendre les décisions qui s'imposent. Et avec ton aide et ton secours, nous y arriverons, Seigneur. Parce que ce que tu as commencé en nous, tu l'achèveras. Merci Seigneur, tu ne regardes pas ce que nous avons été, mais tu regardes à ce que nous serons un jour avec toi, transformés à ton image. Merci Seigneur, tu as foi en nous, tu es plein d'espérance à notre égard. Donne-nous de l'être dans nos foyers Seigneur, plein de foi, de pardon, d'espérance à l'égard de notre mari, de notre femme, de nos enfants, de nos frères et sœurs. Et c'est ainsi que l'espoir renaîtra et que nous pourrons accomplir notre mission pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen.